Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet tout de même assez important. Je crois que c'est à peu
Sur
près
toffe.
incontournable, à savoir ce qui se passe autour de l'Iran, notamment du conflit entre Israël et l'Iran. Et tout d'abord, je voudrais refaire une sorte de tour d'horizon de l'histoire de l'Iran. On peut parler de la Perse aussi, historiquement, cette zone entre la péninsule indienne et le Moyen-Orient arabe sunnite. Alors,
L'ennemi toujours de la Turquie.
l'ennemi toujours de la Turquie, grand rival, effectivement. Alors, c'est un pays assez particulier, l'Iran, parce qu'il est situé au Moyen-Orient, mais c'est pas un pays arabe. En plus de ça, son islam est chiite, une branche minoritaire, à peu près 10-13% de la population musulmane est chiite. Son peuplement aussi n'est pas d'origine arabe. Sa langue, le farsi, est d'ailleurs un dérivé d'un langage indo-européen. Donc, d'ailleurs, le peuple perse est lui-même d'origine indo-européenne. Hein. Donc, on a des origines communes, nous, en tant qu'Européens, avec les Perses, tout simplement. Alors que les Arabes, c'est un peuple sémitique, originaire de la péninsule arabique, qui parle des langues sémitiques, dont l'arabe, justement, qui sont porteurs d'une culture, d'une histoire assez distincte. Leurs origines ethniques et linguistiques ne sont donc pas du tout les mêmes que celles des Perses. Alors, je voudrais faire un petit retour sur les grandes périodes, en gros, historique de la Perse. D'abord, nous avons une civilisation proto-iranienne, avec des royaumes anciens. Là, on est au 3e millénaire avant Jésus-Christ jusqu'à environ 550 avant Jésus-Christ. Donc là, c'est vraiment l'âge de bronze, les toutes premières cités. On a les cultures d'Élam, les Mèdes, d'autres peuples iraniens qui s'installent dans les hauts plateaux. Le royaume Mède, justement, c'est à la fin de cette période, donc à peu près de 700 à 550 avant Jésus-Christ. C'est le premier État iranien vraiment unifié, avant d'être supplanté justement par les Perses. Donc, ensuite, nous avons l'Empire achéménide, 550 avant Jésus-Christ à 330 avant Jésus-Christ, fondé par Cyrus II, le Grand. C'est le premier vaste empire iranien qui s'étend de l'Indus à la mer Égée. Donc, vous imaginez, l'Indus, c'est en Inde. La mer Égée, c'est donc le pourtour méditerranéen. Donc c'est une zone absolument immense. Là, on a le début d'une administration centralisée, la construction de Persépolis, etc. Ensuite, nous avons la période hellénistique. Alors là, c'est en fait avec la conquête d'Alexandre le Grand, donc 330 avant Jésus-Christ. Donc là, l'ancien territoire achéménide est partagé entre les Séleucides et les royaumes satrapiques. Et puis nous avons un graduel effacement de l'autorité grecque avec l'émergence de dynasties iraniennes plus locales. Nous avons ensuite l'Empire parthe de 247 avant Jésus-Christ à 224 après Jésus-Christ, donc à peu près 500 ans, fondé par Arsace Ier. Donc là, le pouvoir, pardon, est partagé entre les nobles et les rois. On a une grande rivalité avec Rome aussi pour le contrôle du Moyen-Orient. C'est l'époque où Rome s'étend beaucoup plus vers l'Orient. Donc cette période, elle est caractérisée par une noblesse assez puissante, une culture
Pour ceux
mixte.
qui lisent les bandes dessinées, c'est Alix, les bandes dessinées d'Alix,
Ah oui.
c'est à ce moment-là, les Parthes et tout, c'est la
C'est
bagarre
vrai, j'ai pas
avec.
trop lu, mais ouais, vous
Ah,
avez
Alix,
raison.
très bien,
Ouais.
ça, très bien, très bien.
Ouais, tout à fait. Ensuite, nous avons l'Empire sassanide. Donc là, c'est 224 à 651. Donc là, on a le renversement des Parthes par Ardeshir Ier, l'un des grands empires du monde antique, rival de Byzance. On a un renouveau du zoroastrisme, zoroastrisme, pardon, j'ai mal prononcé. On a une culture architecturale, artistique, l'écriture, etc. Mais c'est un empire assez fragilisé par des conflits répétés avec l'Empire romain. Et ensuite, là, on se rapproche un petit peu de ce qu'on connaît, puisque nous avons la conquête musulmane, tout simplement, les califats, donc 651 à 1501. Donc nous avons la conquête arabe en 651, la fin de l'empire sassanide, avec une islamisation progressive de la zone, la période des califats, les Omeyyades, les Abbassides, etc. L'Iran devient un centre intellectuel avec Bagdad. L'émergence de dynasties, on a l'émergence de dynasties.
Bagdad n'est pas en Iran. Hein.
Non, c'est pas en Iran, mais disons que ça fait partie de l'ensemble, bien sûr. Mais c'est effectivement, vous avez raison de le préciser, bien sûr. On a l'émergence de dynasties turco-mongoles, les Samanides, les Ghaznévides, Seljoukides, etc., qui mènent tradition persane, influence extérieure. Nous avons ensuite la dynastie Safavide, 1501 pardon, à 1736. Donc là, on a la fondation de l'Iran chiite. Le chef d'État instaure le schisme duodécimain comme religion d'État. L'apogée culturelle, artistique, avec tout ce qui est tapis, miniatures, architecture, etc., c'est à ce moment-là que l'Iran l'atteint. Ensuite, nous avons la période Afcharide et Qadjar, de 1736 à 1925. Là, je vais pas forcément beaucoup préciser cette période que je connais très très mal. Ensuite, nous avons la période Pahlavi, de 1925 à 1979, avec des tentatives de modernisation. Et là, on arrive sur le régime du Shah, donc le régime du Shah qui sera renversé en 1979 par la révolution islamique. Là, je vais aussi préciser un petit peu le particularisme chiite, puisque, encore une fois, je précise, tout le reste de la zone à peu près est sunnite, hein, sauf l'Irak et l'Azerbaïdjan globalement. Et en quoi le chiisme se distingue du sunnisme, c'est déjà par la conception de la succession du prophète. C'est la question centrale. C'est-à-dire que les chiites estiment que la direction de la communauté musulmane devait revenir à Ali, qui est gendre et cousin du prophète Mahomet, et ses descendants désignés comme imams dotés d'une autorité spirituelle et pour certains quasi infaillible. Ça va avoir une influence aussi sur la manière dont on conçoit l'autorité religieuse. C'est-à-dire que, à l'inverse des chiites, les sunnites fondent la légitimité du culte sur le consensus global de la communauté. Donc on va avoir une conception islamique beaucoup plus horizontale chez les sunnites, alors que ça va être beaucoup plus vertical chez les chiites. Là, ça va être vraiment les imams qui vont décider de ce que le culte est, là où le sens global donné par la population a plus d'importance chez les sunnites, même si bien sûr il y a toute une multipolarité de petites verticalités, le père et puis les enfants, le frère par rapport à la sœur, bien sûr l'époux par rapport à sa femme, etc., etc. Donc déjà, Charles, qu'est-ce que vous avez à dire sur ce petit compte-rendu?
Très bien, c'est une vieille histoire. La Perse est un de ces pays dont on peut dire qu'il existe depuis la nuit des temps. Quoi.
Ouais, ouais.
Il a toujours été là.
C'est clair.
Quelque part, il y a eu toujours aussi un pouvoir central en Istanbul, Constantinople. Enfin là, il y avait la Turquie, c'était toujours été un peu un empire qui pouvait aller jusque chez les Mongols là-bas. Donc ça a toujours été une des grandes puissances du Moyen-Orient. Comme vous l'avez fort bien dit, ils ne sont pas des Arabes. Mmh. Ils ont des habitudes philosophiques différentes des autres. Et certains disent qu'ils ont choisi le chiisme parce que, comme la révolution musulmane arrivait du monde arabe, c'était une façon pour eux de devenir musulmans sans tomber sous la coupe des sunnites, qui étaient tous arabes.
En quelque sorte, devenir musulman sans devenir arabe.
Ils veulent devenir musulmans, donc ils ont inventé le chiisme. Mmh. Donc le chiisme et le sunnisme, ça met sur la gueule avec beaucoup d'entrain depuis quoi, la mort du prophète, c'était quoi, 670 pas. Donc ça fait à peu près 1400 ans qu'ils se mettent sur la gueule. Et l'une des questions, et on voit très bien en ce moment qu'est-ce qui se passe, c'est que l'Iran se heurte au monde moderne dans des tas de domaines, et aujourd'hui on voit très bien que le monde arabe ne soutient absolument pas l'Iran.
Ouais.
Tout le monde est en train de m'expliquer que le monde arabe devrait faire ceci, le monde arabe devrait faire cela. Il faut se souvenir que, par exemple, les Alaouites, qui sont un peu des chiites, pas vraiment, mais enfin qui sont considérés comme des chiites en Syrie, ont fait pas loin d'un million de morts dans les guerres civiles en Syrie. Donc, ils sont les Syriens sunnites qui ont pris le pouvoir contre les chiites. ont pas tellement envie de soutenir ceux qui ont...
Bien sûr.
Et je les... Donc, c'est une guerre fratricide qui dure depuis toujours, mais je crois, dans ma connaissance, c'est la première fois, mais je me trompe peut-être, qu'il y a une théocratie au Moyen-Orient. Il y a eu des princes musulmans, mais qui savaient mettre bon ordre à toutes les bêtises musulmanes quand il le fallait, qui bottaient les fesses des gens à tour de bras pour leur faire comprendre que c'était eux le chef et c'était pas les... Parce que là, c'est un très curieux animal qui est né en 1979, c'est cette théocratie où... la grande question du pouvoir, c'est toujours d'où tire-t-il sa légitimité. Ben là, il tire la légitimité de Dieu directement, avec lequel ils ont une relation directe. Et donc, il y a eu assez peu de théocratie dans l'histoire.
Ouais.
Bon, vous en avez quelques-unes. Je sais pas, Savonarole à Florence ou des trucs comme ça, mais ça durait jamais très longtemps chez nous. Ou bien Calvin à Genève. Mais enfin, c'est là aussi, c'était assez limité. Là, c'est très curieux. La théocratie, c'est quelque chose qui d'habitude ne dure pas.
Ouais. Et là, ça fait quand même plus de 40 ans.
Ça fait quand même plus de 40 ans. Mais il faut dire qu'ils ont été d'une violence dans la répression.
Ouais.
Qu'est-ce qu'ils ont pu tuer comme gens? Ça, c'est des... Donc, pour moi, ce qui est le plus extraordinaire avec cette théocratie, c'est que dans la constitution qu'a imposée Kadhafi, là, pas de Kadhafi, mais Khomeini, pardon, et dans le préambule de cette constitution, le but de l'État théocratique iranien, c'est d'éradiquer complètement Israël. C'est l'un des principaux buts.
L'entité sioniste, ils appellent ça comme ça.
Non, mais il faut les tuer tous, quoi. Donc, si vous voulez, c'est quand même curieux qu'on ait même admis à l'ONU un pays qui avait dans sa constitution que son but principal, c'était de détruire un autre pays, quoi. Donc, alors que les Perses, historiquement, n'avaient jamais été antisémites, et si mes souvenirs sont exacts, c'est Cyrus qui était perse qui avait permis aux Juifs de revenir à Jérusalem après qu'ils l'aient perdu. Donc il y avait plutôt des bonnes relations entre le Shah et Israël pour tenir le monde arabe. Donc, pourquoi M. Khomeini et Khamenei derrière sont tellement anti-sionistes et antisémites, je sais pas. Mais en tout cas, c'était le cœur, c'était de se débarrasser des Juifs, quoi.
Ouais, effectivement. C'est-à-dire que, alors, la période juste avant la révolution islamique, c'était donc la monarchie avec le Shah d'Iran.
Ça devenait un pays moderne, hein, okay, c'était ça. Pas.
Alors, effectivement.
Il y avait des excès et tout, mais enfin, il y avait eu beaucoup de développement aussi. Hein.
Tout à fait. C'est-à-dire que le gros problème de cette période, c'est que il y avait une tentative de modernisation, ils étaient pro-américains, etc. Mais c'était un peu une modernisation forcée. Et aussi, il y a eu un enrichissement d'une élite par rapport
à la réalité, bien sûr, il y a eu un enrichissement d'une élite qui s'est passé, mais c'est surtout parce que la quasi-totalité des terres appartenait au clergé.
Ouais.
Et que le chat voulait le rendre à la population.
Ouais.
Et donc le clergé trouvait que c'était pas du tout une bonne idée, quoi.
Ouais, tout à fait. Le clergé avait une influence absolument énorme dans tout ce qui était mosquée, école religieuse. Enfin, ils avaient une influence dans la population.
Il y avait deux pouvoirs. Il y avait trois pouvoirs. Il y avait le chat. Il y avait ce qu'on appelait le bazar, c'est-à-dire les milieux d'affaires. Et il y avait le. Il y avait le clergé chiite. Et on disait toujours que. Il fallait toujours qu'il y ait deux pouvoirs contre un, parce que sans ça, et là, ce qui s'est passé, c'est que le bazar, pour des raisons X, Y, Z, s'est allié à...
aux religieux.
Aux religieux, et pour se débarrasser du chat, et que ça n'a pas été une bonne idée, parce que, bon, le chat, il avait une politique et tout, mais c'était un enfantillage par rapport à ce qu'ont fait les religieux derrière, quoi.
Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que il y avait trois grands courants qui ont participé à cette révolution. Les religieux, évidemment. Il y avait les libéraux nationalistes et puis les libéraux, pas tellement libéraux d'ailleurs, mais justement les marxistes, les révolutionnaires marxistes.
Oh, ceux-là, ils ont été liquidés tout de suite.
Ouais, ceux-là ont été liquidés très rapidement.
Tout de suite.
Ce qui d'ailleurs, en fait, a fait penser à beaucoup d'intellectuels marxistes de chez nous qu'il fallait soutenir la révolution iranienne. Notamment Michel Foucault, lui, était totalement pour cette révolution.
Il a dit tellement de bêtises, celui-là, qu'on ne va pas s'intéresser à ce qu'il a pensé, parce que...
Non, bien sûr.
C'est quand même... On ne va pas tomber à un niveau... C'était un monsieur qui passait son temps au Maroc avec des petits garçons. Donc, si vous voulez, moi, des types qui pensent de travers et qui, normalement, auraient dû être en prison pour pédophilie, je préfère pas en parler.
Oui, oui, je comprends tout à fait. Enfin, bref, ces mouvements-là qui ont aidé, en fait, les religieux à accéder au pouvoir, derrière, se sont fait liquider très, très vite. Donc, c'est les religieux qui ont totalement mis la main sur le pays. C'est devenu donc... une théocratie, vous l'avez dit, ce qui est effectivement assez rare, et surtout que ce soit aussi long, parce que parfois il peut y avoir une période théocratique très courte qui mène ensuite à un autre régime, encore une fois. Mais là, effectivement, c'est en fait, le régime a atteint sa propre finalité très très rapidement, et ça c'est quand même
Surtout, il a liquidé tous ceux de, donc ils ont très bien monté leur coup, parce qu'ils ont noyauté toute la population, etc. Mais ouais. Aujourd'hui, l'Iran, je crois, c'est le pays où il y a 60% des mosquées qui ferment. Il n'y a plus personne qui va, quoi. Donc, après 40 ans de théocratie, ils sont tous devenus... sauf qui peut, les gars, quoi. Dès qu'ils voient un mot là, ils partent dans l'autre sens.
Ouais, tout à fait. Et alors, effectivement, sur les relations avec Israël, vous en avez parlé. Israël avait des relations tout à fait cordiales, autrefois, avec l'Iran. Dans les années 60-70, l'Iran fournissait du pétrole à Israël, tandis qu'Israël lui apportait une aide en matière de technologie militaire et agricole. Des échanges commerciaux existaient, malgré l'absence de relations diplomatiques officielles. Et les services de renseignement israéliens, donc le Mossad et iranien, la SAVAK, collaboraient étroitement. Donc, depuis, ça a énormément changé. Le nouveau régime de Roménie rompt immédiatement avec Israël, le qualifie d'entité sioniste, illégitime, adopte une position radicalement hostile. L'ambassade d'Israël à Téhéran est fermée, remise à l'Organisation de Libération de la Palestine. Et là, l'hostilité idéologique devient une composante absolument centrale du discours politique iranien. C'est-à-dire que c'est presque comme quand l'Algérie parle de la France, voire même bien pire encore, l'Iran parle d'Israël. C'est vraiment l'ennemi numéro un. En plus de ça, Israël est vu comme, pas totalement à tort d'ailleurs, comme un proxy américain. Et justement, le régime du Shah précédemment, qui était très pro-américain, c'était, on va dire, l'ennemi idéologique du nouveau régime. Et donc, tout ce qui est en rapport de près ou de loin avec la modernité, le capitalisme, les États-Unis, c'est l'ennemi, en réalité.
Enfin, ça les a pas empêchés de s'enrichir comme des gorées.
Non, bien sûr.
Il n'y a pas plus corrompu que ce régime-là, si vous voulez. Ça a été, ils ont tué, volé, pillé, massacré, violé, mis en prison, des faux jugements. Donc, c'est certainement un régime les plus épouvantables qui a eu lieu, depuis les meilleures années du Cambodge, ça a été un vrai gouvernement d'assassins.
Ouais, avec une recrudescence d'ailleurs de tout ce qui est exécution publique, etc. Mais
absolument, ça, pour ce qui est de tuer, c'est le pays qui tue le plus de gens par an après la Chine. La seule différence, c'est qu'ils doivent être, je sais pas combien, 80 millions, et qu'en Chine, ils sont 1,4 milliard, mais ils tuent à peu près autant de gens par an que la Chine. Donc c'est des assassins et des ordures, quoi.
Ouais,
il y a rien à en dire.
Près de 1000 exécutions en 2024, ce qui est absolument énorme.
Y compris des enfants de 12 ans, 13 ans.
Oui, bien sûr.
Exécution publique, on vous accroche à des crocs de boucher en public. Enfin, je veux dire, j'ai vu des photos, mais c'est inouï.
C'est épouvantable.
Ce pays est que... c'est très curieux parce que, si vous voulez, il tue... plus de 1000 personnes par an, plus tous les gens qui faisaient tuer partout, en cachette. Et personne ne parlait de ces meurtres dans la presse. Et donc, on se rend bien compte qu'il y a des pays qui, sous prétexte qu'ils disent qu'ils sont contre les États-Unis, ce qui me paraît être une idée tout à fait intéressante, ont le droit de faire n'importe quoi parce qu'ils sont contre les États-Unis. Donc, si vous voulez, ça vaut brevet d'honorabilité d'être anti-américain.
Oui.
Et la gauche française, vous n'avez qu'à voir Cuba, ils sont tombés en 58, ça fait 70 ans qu'il y a des prisonniers politiques qui crèvent de faim, il n'y a pas d'électricité et tout, mais personne ne dit jamais du mal du communisme cubain. Donc, vous avez cette espèce de biais de vue de tous ces gens qui sont toujours trompés sur tout, qui ont été ravis quand Pol Pot est arrivé, etc. Vous avez tous les mêmes, quoi. Qui ont un prisme, c'est si c'est anti-américain, c'est nos alliés.
Ouais.
Et aujourd'hui, bah, l'archétype, c'est M. Mélenchon, quoi. C'est,
ouais.
Qui était à la veille de nous dire hier qu'il trouvait que c'était une mauvaise idée d'attaquer ce pays, qui est un pays abominable et qui dont les dirigeants diraient disparaître depuis.
Ouais. Ah oui, bah, sachant que Mélenchon, en plus de ça, maintenant est sur un angle totalement. Oui,
mais là, il est complètement crétin, c'est parce que. Les musulmans sunnites, qui font 90%, qui sont son électorat maintenant, paraît-il, eux, ils n'avaient qu'une idée, c'était de se débarrasser de ces chiites.
Ouais.
Donc, lui, il pense qu'un musulman, c'est un musulman, quoi. Il est suffisamment bête, apparemment, pour confondre un chiite et un sunnite. Et moi, je suis stupéfait de voir l'imbécilité des discours de Mélenchon, qui pense que tous les musulmans sont pareils.
Ouais.
Mais il n'y a rien à voir entre un chiite et un sunnite.
Il doit se dire simplement que qu'il soit chiite ou sunnite, il s'oppose à Israël, je m'oppose à Israël, donc je suis copain avec les Iraniens.
Oui, mais si vous voulez, c'est être copain avec Hitler parce qu'il s'oppose aux communistes. Quoi. Vous voyez, c'est à peu près aussi interdit. C'est en 1940, il y en a plein qui ont fait cette analyse.
Oui, il y en a quand même.
C'était pas les plus malins. En fait, ce qui est extraordinaire, c'est de voir à quel point M. Mélenchon ne connaît rien à rien, quoi.
Ouais.
Ni de l'histoire, ni du coin. Et vous le voyez très bien, c'est que là, dans les bombardements qui ont lieu en ce moment, les Jordaniens, les Syriens, les Saoudiens, tout le monde dans la région interceptent les missiles qui vont vers Israël. Et je lisais des crétins de gauche qui disaient « Quel salopard, ils interceptent les missiles du monde arabe ». Mais je leur disais « Vous êtes complètement couillons ». Enfin, je leur dis pas, mais ils le sont. Parce que c'est pas des Arabes. Et si vous étiez Syrien, vous avez été martyrisé par les Alaouites, qui étaient des chiites, qui étaient sous les ordres et qui obéissaient à l'Iran. Donc, si vous voulez... Ces crétins pensent qu'il y a le monde arabe qui est, puis il y a Israël et le monde arabe qui inclut l'Iran. Hein. Ils sont très méchants, ils sont très gentils. Israël est très méchant. Et donc, si Israël attaque quelqu'un, il faut le défendre.
Ouais.
Mais on peut pas être plus bête. Mais moins connaître la région, quoi.
Ouais.
C'est remarqué qu'ils étaient. Ils étaient violemment pour Mao.
Oui, bah oui, ils étaient pour...
Les Foucault et compagnie, ils étaient tous pour Mao.
Voilà. Alors, pour revenir un petit peu sur la recrudescence de ce conflit, déjà, évidemment, il y a tout ce qui s'est passé en 2024.
Il n'y a pas de recrudescence. Je m'explique, parce que là encore, je ne suis pas du tout d'accord avec toutes les analyses que je fais et que je vois. Le 7 octobre.
Oui.
Il y a eu une attaque organisée par le Hamas qui a tué 1300 ou 1400 personnes en Israël, ayant franchi la frontière, parce qu'ils étaient juifs.
Ouais.
Uniquement parce qu'ils étaient juifs. Ils étaient là. Ça s'appelle un génocide. Et à ce moment-là, je crois que la population juive en Israël a compris que les Iraniens ne plaisantaient pas. Quand il disait qu'il voulait génocider tout le peuple juif.
Oui, parce que bien sûr, les Iraniens soutiennent le Hamas, le Hamas en Palestine et le Hezbollah au nord.
Et la Syrie à l'époque.
Ouais.
Donc, ils se sont dit, bon, ben maintenant, au début, ils croyaient que c'était des plaisantins qui disaient ça comme ça pour dire du mal des juifs, si vous voulez, comme si c'était une aimable plaisanterie.
Hein. Bien sûr.
Et là, ils se sont rendus compte que ça ne va pas du tout. Donc, je crois que la décision a été prise par des instances politiques, d'ailleurs, en Israël, de liquider le danger iranien, pour toujours.
Ouais.
Donc, ils ont commencé par se payer le Hamas, avec une certaine brutalité, à Gaza. Puis, en même temps, ils ont liquidé le Hezbollah, le Fatah et la Syrie. Oui, où ce brave Hafez al-Assad est tombé. Hein. Boum.
Ouais, Bachar.
Bachar al-Assad, c'est son père, Hafez.
Ouais.
Donc, ils sont tombés. Donc, ils ont liquidé tout ce qui aurait pu être des fronts secondaires s'ils attaquaient directement l'Iran.
Parce qu'ils auraient... tout ce qui était à la frontière.
Tout ce que l'Iran avait mis en place partout comme espèce de tampon pour empêcher Israël de leur rentrer dedans. Quoi. Mm-hmm. Donc ils les ont liquidés les cartes, hein, c'est fait. Et ensuite, maintenant, ils vont pour la jugulaire et je crois honnêtement qu'il n'y a que deux possibilités. Je crois que d'abord qu'ils vont faire sauter les installations pétrolières pour que ces gars-là n'aient plus un rond.
Ouais.
Parce que pour l'instant, ils tenaient le pognon, donc ils pouvaient acheter des criminels. Mais à partir du moment où vous ne payez plus les criminels ou la police, votre pouvoir diminue assez fortement. Et donc, ils essayent de faire tomber le régime. Et il n'y a que deux possibilités. Si vous voulez, où il va y avoir un changement de régime, et à ce moment-là, l'Iran rentre dans le concert des nations et se retrouve dans cette espèce d'immense zone de croissance dont j'ai souvent parlé, qui part du sud de la Russie, la Crimée, et qui arrive jusqu'à l'Inde, vous voyez, cette espèce d'immense croissant. Et donc, ils ont tout le droit d'y être là, ils y seront, ils ont des très belles universités, ils feront ça avec la Turquie, tout ça, ça passera très bien. Ils arriveront même peut-être à développer le Pakistan, si on a du pot. Il y a une autre série de crétins redoutables qui existent. Ou bien, ils restent au pouvoir, ces gens-là, et à ce moment-là, ils rejoindront le Pakistan dans la catégorie des États faillis, des États qui ne marchent pas, des pays qui sont avec des risques de sécession, etc. Mais je crois qu'on arrive à un moment que j'attendais depuis 40 ans où enfin on va nous débarrasser de ces criminels.
Donc, alors est-ce que vous pensez par exemple que ce qu'on explique depuis quelques jours, c'est que l'Agence internationale de l'énergie atomique a jugé que l'Iran était non conforme à ses obligations nucléaires, une première fois en 20 ans. Donc l'Iran, normalement, est parti à des obligations par rapport à...
Oui, tout le monde avait signé cette idée. Voilà. Mais en plus, il y a une différence. Les gens disent, mais Israël a l'arme atomique. Je dis, mais il n'y a pas dans la constitution israélienne le fait que dès qu'ils auront l'arme atomique, ils vont aller bombarder l'Iran.
Oui.
Tandis que là, si vous laissez une bande de cinglés comme eux avoir l'arme atomique, ils vont le filer au Hamas ou je sais pas qui vont aller faire sauter Tel Aviv. Donc, c'est exactement comme en 1934-35, je me souviens plus très bien, la Ruhr. C'est-à-dire quand les Allemands ont récupéré la Ruhr, si on avait envoyé les Français en française, on n'aurait jamais eu Hitler, quoi.
Ouais, tout à fait.
Donc, Hitler nous avait dit exactement ce qu'il allait faire.
Ouais.
Et on l'a pas cru.
Ouais.
Moyennant quoi, on a eu les Allemands à la maison pendant 5 ans.
Ouais.
Ben, je crois que c'est exactement pareil. Là, ils nous ont dit ce qu'ils allaient faire et il faut surtout pas les laisser faire.
Ouais. Oui, effectivement. C'est ce qu'explique Donald Trump. Il dit noir sur blanc, l'Iran ne peut pas avoir l'accès à l'arme nucléaire.
Point barre.
D'ailleurs, qui est véritablement en désaccord avec ça? Parce que même les alliés, entre guillemets, de l'Iran, les Russes, les Chinois, est-ce qu'ils ont vraiment envie que l'Iran ait accès à l'arme nucléaire?
Non, d'abord, c'est pas simple. En plus, les Russes, les Chinois, vous remarquez que d'abord, tous les pays arabes, doivent être l'Arabie Saoudite et tout, doivent être en train de dire aux Russes, aux Chinois, dites les gars, si on pouvait se débarrasser de ces gars-là, on pourrait enfin faire des affaires.
Ouais, c'est clair.
Parce que nous, sans ça, on peut pas bouger parce qu'il y a des terroristes partout.
C'est clair.
Donc, ils ont financé le terrorisme mondial partout, quoi. Ils ont tué des gens à Paris, je me souviens. Il y avait un ancien premier ministre iranien qui avait été abattu dans le 16e par les services secrets iraniens. Il y a quoi? C'était quelques temps après la chute du Shah. Donc, si vous voulez. Vous avez un régime criminel, vous ne pouvez pas le laisser agir. Mmh. Je ne suis pas un gros partisan d'intervention militaire, mais alors celle-là, je l'attends depuis...
Oui, c'est clair. Alors, c'est vrai que... Vous n'êtes pas un interventionniste...
D'habitude, je dis aux gens, démerdez-vous, faites des élections et tout et tout. Mais là, vous ne pouvez pas, parce que c'est comme si vous alliez prêcher, je sais pas, les droits de l'homme d'Achaud, quoi. Je veux dire, c'est pas vraiment le sujet, quoi.
Ouais.
Ces gens-là sont des criminels purs et simples, quoi.
Et est-ce que vous pensez que c'est possible de renverser ce régime et de faire quelque chose après qui soit reconstruit?
Il faut leur couper la route du fric.
Ouais.
La route du fric, c'est les 1,5 million de barils qu'ils vendent par jour à la Chine. C'est terminé, quoi.
Ouais.
On fait sauter leurs installations, ils ne peuvent plus rien vendre. Et puis au bout de 3 mois, Je sais pas ce qui se passe, mais ouais. C'est à ce moment-là, c'est un problème. C'est les Iraniens qui doivent se développer, ils vont aller les chercher.
Mais alors, si on fait ça, les Chinois, ils vont pas être très contents non plus.
On s'en fout. Ils sont très contents, les Chinois. Vous savez, si le suivant fait des affaires avec eux, ils sont très contents.
Ouais.
Et n'oubliez pas qu'ils ont un problème musulman qui est loin d'être réglé avec les Ouïghours. Les Ouïghours, donc, qui sont aussi des Turcs, donc, qui sont des lointains cousins. Donc, les Russes aussi, ils ont quelques petits problèmes avec des musulmans ici ou là. Donc, vous savez, ils diront rien du tout.
Ouais.
Et les gens me disent, ils vont bloquer le détroit d'Hormuz. Je leur dis, vous rigolez. Le détroit, par où passe 60% du pétrole mondial. Je leur dis, vous rigolez, vous avez regardé là-dedans, là, vous avez un petit truc de 40 km comme ça, étroit. Là, vous avez l'Iran. Et là, vous avez Bahreïn. Et Bahreïn, c'est là où il y a la base militaire la plus importante des États-Unis.
Ouais.
Au monde.
Ouais.
Donc, vous avez là deux flottes américaines. Ouais, ouais. Donc, s'il y a quelqu'un qui se met en face pour essayer de barrer, ils vont être vitrifiés en deux minutes.
Ouais, c'est clair.
Parce qu'il ne faut pas oublier que les traités américains stipulent que c'est eux qui font la police sur les mers. Hein.
Ouais.
C'est eux qui empêcheront. Donc, si quelqu'un empêche le trafic libre, ils sont habilités à rentrer dedans. Quoi.
Ouais, ils ont envoyé aussi l'USS Nimitz, qui est, je crois, le plus gros porte-avions américain qui était calé vers le...
Et ils ont envoyé 30 avions ravitailleurs.
Ouais.
Pour le cas échéant. Donc, quelle est la question aujourd'hui, si vous voulez? Elle est assez simple. C'est que les Iraniens ont fait des installations à 80 mètres sous terre partout.
Oui.
Et que pour aller chercher quelqu'un à 80 mètres sous terre, il n'y a qu'une bombe qui fonctionne, c'est la bombe américaine, qui fait 2 tonnes, je crois pas quoi, qui descend tout droit comme ça, et qui explose à 40 mètres sous terre. Mmh. Et donc... Vous êtes aplati comme une punaise quand ça se passe. Mais il n'y a que les Américains qui la font, ils la donnent que ceux qui en ont vraiment besoin, si vous voyez ce que je veux dire. Ils la donnent pas à tout le monde, quoi. La question, c'est si ça se passe mal à ce moment-là, ils pourront enfiler 4 ou 5 à Israël, qui feront sauter les 4 ou 5 installations dont ils savent très bien où elles sont. Qui sont à 85 mètres sous terre, et à ce moment-là, ça sera la fin de la raconte. La question, c'est est-ce qu'ils vont tuer Khamenei ?
Ouais, parce que, alors, effectivement, c'est une question centrale. Déjà, parce que, quand on regarde l'organigramme de ces dernières années de la hiérarchie.
Dans l'armée iranienne, votre espérance de vie ralentissait assez vite.
C'est clair. Il y a le nouveau chef des armées, chef d'état-major, pardon, qui était en poste, du coup, depuis 4 jours, qui a encore été liquidé. Sachant que le précédent.
Ça prouve aussi que les services secrets israéliens ont une pénétration des milieux dominants en Iran, qui est absolument inouïe. Parce qu'ils savent très bien où ils sont, ils savent à quel moment ils sont, tout le moment.
C'est énorme. Et ils en recrutent certains, ce qui pousse aussi le régime à être derrière complètement paranoïaque, à raison d'ailleurs, puisque n'importe qui dans le régime iranien, aussi haut placé qu'il soit, peut être un agent israélien ou américain. Et en plus de ça, quand vous voyez le nombre de types qui meurent, même si vous n'êtes pas un agent israélien, vous avez un petit peu envie de le devenir juste pour avoir une espèce d'assurance vie, quoi. De vous dire, au moins je travaille avec vous à partir de maintenant.
Ça, c'est pas sûr, parce que s'il est nommé chef, à mon avis, on le descend parce qu'il est nommé chef, mais pas parce qu'il est, même serait-il un agent israélien, qu'on le descend quand même.
Oui, c'est un peu ça. En fait, maintenant, si vous êtes encore vivant, vous êtes suspect par définition.
Voilà. Donc, tout ça est très difficile, mais je ne vais pas pleurer parce qu'un des régimes les plus épouvantables dans le monde est à la veille de disparaître.
Ouais.
Ça, je suis désolé, mais
ça
me fait le plus grand plaisir.
Ouais, j'ai un petit peu
en plus,
le même sentiment.
Le peuple iranien est un peuple au poil. C'était un peuple où il y avait beaucoup, beaucoup de liberté, beaucoup de... Les femmes voilées, ça n'existait pas. Enfin, des universités remarquables, des avancées... on les a ramenés 700 ans en arrière. Ils n'ont jamais été comme ça, d'ailleurs. Donc, renvoyons-les. Moi, je suis pour la laïcité.
Oui.
Séparation de l'Église et de l'État. Mmh. Embêtant, c'est que nous, on a une autre Église qui a pénétré dans notre État. Mais enfin, c'est... Donc, il faudrait se débarrasser de cette Église-là. Mais les Iraniens, ils ont... C'est le contraire exactement de tout ce que une démocratie libérale, honorable, cherchent à être.
Oui, bah, c'est clair.
C'est l'envers.
C'est clair.
Tout ce...
Mais est-ce que l'Iran pourrait quand même devenir une démocratie? Parce qu'ils ont été non... ils n'ont pas toujours été une théocratie, bien entendu.
Ils ont eu des moments avec Mossadegh, ils avaient eu des élections et tout. Vous savez, la question, est-ce qu'on peut être une démocratie? On peut être... Regardez... Il y a des tas de pays qui sont devenus des démocraties.
Oui.
Bon, c'est pas, ça marche pas toujours très bien. Mais oui, c'est... Bon, la France, sur les deux derniers siècles, elle a dû être en démocratie, allez, la moitié du temps. Non
oui. Et on critique,
on critique les autres,
bien souvent la façon dont on est une démocratie.
Attendez, on n'a pas été... sous la terreur, ça, il n'y a pas de question. Ensuite,
oui, ouais,
jusqu'en 1848, on peut en discuter. Puis on a eu 2 ans de démocratie. Puis ensuite, on a eu 1850 à 1870, 20 ans d'empire.
Ouais.
Donc ensuite, on a eu la Troisième République. Puis on a eu Pétain, qui n'était pas vraiment une démocratie.
Non.
Et puis, il y a eu De Gaulle, où les premières années du gaullisme, c'était très démocratique, mais c'était robuste aussi. Il y avait... Donc, et aujourd'hui, on n'est certainement pas une démocratie, puisque personne ne fait attention au vote de qui que ce soit. Donc cette démocratie, c'est difficile.
Oui. Oui, c'est clair.
L'Allemagne, c'était une démocratie depuis longtemps.
Je sais pas, je me garderai bien de mettre un avis définitif.
L'Angleterre, c'était une démocratie, oui, depuis un peu plus longtemps que les autres, mais en ce moment, ils vacillent. Les États-Unis, on peut poser la question parce que l'État profond, c'est bien une réalité. Donc cette notion de démocratie, il faut quand même l'utiliser avec beaucoup de prudence.
Ouais, c'est clair.
L'essentiel, c'est est-ce que vous pouvez rentrer et sortir? Est-ce que vous pouvez élever vos enfants comme vous voulez? Et moi, j'ai une expérience curieuse comme ça. C'était dans mon église à Montfavet. Un jour, je vais à la messe et il y a un prêtre qui disait la messe, qui avait une belle tête du Moyen-Orient. Alors je vais le voir à la fin, je dis à mon père, alors c'était une histoire très curieuse, un Iranien, qui était d'une famille de mollahs, etc., et qui avait été servir dans les hôpitaux, et s'était rendu compte qu'il y avait des chrétiens là qui se donnaient un mal de chien, donc il s'était renseigné sur la foi chrétienne, ça l'avait beaucoup plu, il voulait devenir chrétien, alors on lui a dit qu'il avait 2 jours pour quitter l'Iran, il avait une femme et un petit garçon, on l'a laissé partir parce qu'il faisait partie d'une famille de mollahs. Hein, parce que sinon, on l'aurait exécuté ouais. Tout de suite, puisqu'il avait abandonné sa religion. Vous savez que vous êtes musulman, si vous avez changé de religion, vous êtes mort. Et donc, on le recueille à l'Institut catholique à Paris, fait des études de philosophie et tout, puis sa femme meurt, et il devient prêtre. Et quand il a été consacré prêtre, il est monté à l'autel en portant son fils dans ses bras. Quoi.
Ah oui.
Et alors j'ai posé des tas de questions sur l'Iran, et la religion musulmane et tout. Il n'était pas vraiment complimenteux.
Oui, j'imagine, ouais.
Non, mais il disait, vous imaginez pas l'horreur que c'est.
Ouais. C'est ce que disent beaucoup d'Iraniens ailleurs. Hein, je pense qu'il n'y a pas plus rare que le soutien au régime iranien chez les Iraniens exilés.
Ils se retrouvent à Los Angeles, ils se retrouvent à Paris, ouais. Ils se retrouvent à Londres, ils se retrouvent partout. Et et il n'y a pas de pire souffrance que d'être exilé.
Ouais. Ouais.
C'est être virer de votre pays pour plus jamais y revenir, c'est une souffrance insupportable.
Oui, bien sûr. Bah, y a à peu près 9 millions, je crois, d'Iraniens exilés dans le monde. On peut dire...
Et ceux-là, probablement, si ça redevenait... Ils doivent être à la tête, probablement, de capitaux importants parce qu'ils ont bien travaillé.
C'est généralement des gens qui réussissent assez bien dans la vie.
Qui sont docteurs.
Beaucoup de gens qui faisaient partie plus ou moins de l'élite ou de la bourgeoisie.
Oui, parce que ces régimes théocratiques, ils sont contre la science et ils sont contre le progrès, comme on disait autrefois.
Le commerce,
dès qu'il y a un type normal, ils le liquident.
Exactement. Dès que vous en sortez un petit peu trop dans la vie, vous êtes suspect.
Vous êtes suspect, c'est que vous avez volé les pauvres. Et puis ensuite, on s'inscrit à LFI. Parce que c'est le même genre d'intelligence. Donc, ils ont un actif énorme, l'Iran aujourd'hui, c'est ces 9 millions de gens à l'étranger.
Ouais. Et c'est sûr, alors, c'est 9 millions de personnes. La grande question, ça va être, est-ce qu'ils reviendraient en
Tous,
Iran?
voire du bas. En tout cas, ils réinvestiraient certainement là-bas. Ils
Parce que
ramèneraient du pognon.
ce serait
C'est évident.
absolument essentiel, c'est sûr, s'ils
Et
veulent
puis,
reconstruire le pays.
quand vous regardez l'Iran, ils partagent à moitié le plus important gisement de gaz au monde avec le Qatar, là. Pour l'instant, on n'a pas fait des trous et tout, parce que les Iraniens ne peuvent pas exporter. Pour des tas de raisons, quand ils sont pris, il y a des pénalités contre eux, donc ça ne sert à rien de faire des trous. Mais le jour où l'Iran devient un pays normal et fréquentable, je vous assure qu'ils vont se mettre à exporter comme le Qatar, et là le pognon va rentrer pour faire des investissements. Il n'y a pas eu d'investissement fait en Iran, dans les hôpitaux,
Ah oui,
etc.,
bien sûr.
depuis 40 ans, quoi.
Ouais, bien sûr. Et pareil sur les gisements de pétrole. Alors j'ai vu que l'Iran n'avait jamais produit autant de pétrole que avant la révolution iranienne.
Bien sûr.
Depuis, ils n'ont jamais réussi à
Non,
reproduire
ben non,
autant.
parce qu'ils ont. C'est un truc technologie difficile, donc vous avez besoin de Schlumberger, d'Haliburton et tout ça. Si vous avez des crétins qui connaissent le Coran par cœur, ça vous fait pas sortir le pétrole du trou, hein.
Oui, c'est comme le Venezuela aussi qui a des problèmes monumentaux avec.
Regardons pareil. Ils avaient nationalisé le pétrole au Venezuela, et du coup, ben maintenant ils crèvent de faim. Alors que c'est au Venezuela qu'il y a les réserves de pétrole les plus importantes du monde. Prouvé. Donc le Venezuela, s'ils se débarrassaient de leur crétin, là aussi.
C'est quand même assez fou parce que quand vous avez des réserves de gaz ou de pétrole, enfin vous vivez la vie en mode facile, quoi. C'est-à-dire que vous n'avez même pas
C'est la
besoin
malédiction
de.
du pétrole. En fait, on se rend compte que les pays qui ont du gaz et du pétrole,
Ne
ils
se
ont
concentrent
immédiatement.
pas sur le reste. Donc,
Non, mais c'est pas ça. Il y a la corruption, il y a
ouais,
tout ça qui se met,
oui, tout
il y
à
a
fait.
les luttes pour le pouvoir. Et la seule chose qui vous rend riche, c'est de travailler. Je ne vais pas d'avoir du pétrole et du gaz dans le sol. C'est pour ça que j'entends. Il y a plein de gens qui me disent sans arrêt sur le site là, qui écrivent la France ou l'Europe s'est enrichie en pillant l'Afrique, n'importe quoi. Lisez les bouquins, lisez les livres de Marseille sur
Jacques Marseille, tout
Jacques
à fait.
Marseille, etc. Et vous
Daniel
verrez
Lefebvre aussi.
Vous verrez donc arrêtez de dire qu'on s'est enrichi. On s'est enrichi parce qu'on travaillait mieux, plus efficacement que vous. C'est pas parce qu'on a été vous prendre des trucs et qu'on les a vendus. C'est ce que j'appelle la valeur de rareté. Il y a la valeur d'efficacité, qu'est-ce qu'on a découvert, et la valeur de rareté, qu'il y a une mine d'or en Afrique. On s'en fout de la mine d'or, c'est pas ça qui nous a rendu riches.
Oui, tout à fait. Et puis, par ailleurs, on a aussi réussi à exploiter des matériaux qui jusque-là n'étaient pas exploitables. Imaginons que demain, on arrivait par un procédé chimique extrêmement complexe à transformer du sable, par exemple, en acier, j'en sais rien. Bon, bah, on installerait des mines au Sahara et
Enfin,
on nous reprocherait de piller
prendre le sable.
le sable. Bon, bah,
Qui
d'accord.
servait à rien, qui a jamais servi à
Voilà, qui
rien,
a
qui a jamais
jamais
servi.
servi à rien, qui vous empêchait de faire des villes, etc. Donc, bon, j'ai envie de dire, ce serait plutôt un bon débarras. Mais oui, à chaque fois, c'est souvent comme ça. D'ailleurs, il y a une inversion logique, puisque si nous étions pauvres et sous-développés, et que l'Afrique était riche et surdéveloppée, comment on a réussi à les coloniser aussi facilement? C'est quand même, va falloir me l'expliquer, ça.
Aussi facilement, ça pas comment ils ont fait aussi pour s'évider de leur population en mettant sur l'esclavage leur population qui vendait soit aux Arabes, soit à l'Amérique du Sud, là-bas, parce qu'ils. Donc, si vous voulez, l'idée que l'enrichissement. Ça vient toujours de l'idée que l'enrichissement vient de l'exploitation de l'autre.
Oui, tout à fait.
Ce qui est complètement différent.
Absolument, oui, tout à fait.
S'il suffisait d'exploiter l'homme pour être riche. On aurait été riche depuis un peu plus longtemps que la révolution industrielle, hein, parce que ça fait 40 000 ans qu'on est vachement bon, c'est exploiter les
D'ailleurs,
uns les autres.
l'enrichissement. L'accélération de l'enrichissement de l'Europe est plutôt concomitant avec l'abolition de l'esclavage, d'ailleurs.
Mais
C'est quand même.
c'est toujours ce que j'ai dit, le christianisme, en interdisant l'esclavage, ce qui était le cas, a forcé le progrès technique. Dans la mesure où vous avez 5 gars qui peuvent courir, vous n'avez pas besoin de l'eau courante. Mais si les 5 gars sont plus là, ben vous trouvez que l'eau courante, c'est quand même mieux d'aller chercher l'eau vous-même au puits, quoi.
Absolument.
Donc le progrès technique est le résultat de l'interdiction de l'esclavage.
Ouais, tout à fait. Développement de l'ingénierie, de la
Exactement.
mécanique, etc.
C'est toujours pareil. De la connaissance vient la richesse.
Absolument. Et alors, pour revenir à ce qui s'est passé vraiment dans un laps de temps très court, donc hier, au moment où on tourne cette émission, juste après avoir atteint la station de télévision d'État iranienne, ce qui a donné lieu à une vidéo, je trouve particulièrement amusante, mais enfin bon.
On voit la pauvre essayer de se barrer.
Téhéran a annoncé derrière une pluie ininterrompue de missiles jusqu'à l'aube. Alors finalement, il y a seulement entre une vingtaine et une trentaine de missiles qui ont été envoyés. Et il semblerait, d'après ce que j'ai lu, qu'aucun n'avait atteint de cible. Donc pas de dégâts matériels, pas de dégâts humains. L'Iran s'est dit d'ailleurs favorable à reprendre des négociations, tandis que Donald Trump, de son côté, a annoncé que les États-Unis ne s'engageraient dans le conflit que si des Américains sont ciblés par l'Iran. Il a plus tard regretté que l'Iran n'ait pas accepté l'accord
Il
qu'il
a
avait
donné
proposé.
60 jours.
Oui, alors ça c'est extrêmement important effectivement parce que en avril, Donald Trump donne 60 jours à l'Iran pour accepter un accord sur la non-prolifération de son uranium enrichi. Et le jour où Israël a commencé à bombarder
Fête
l'Iran,
61e.
c'était le jour 61, effectivement. Donald Trump, c'est le collecteur d'impôts. Il arrive à minuit 01 le jour où vous n'avez pas payé. Et là, va falloir raquer. Ça va coûter cher.
Mais alors, ce qui est très terrible, c'est que bon, ils ont pour tirer ces espèces de missiles qui sont autre chose que des drones, donc
Oui.
qui sont difficiles à arrêter, ceux-là, etc. Vous avez besoin d'un rampe de lancement. Alors, vous avez que deux sortes de rampes de lancement. Vous avez les rampes de lancement fixes, et alors là, qui sont cachées et tout. Mais dès que vous avez tiré un missile, on sait qu'elle est là, et
Oui, on sait qu'elle est là.
elle est liquidée dans la demi-heure qui suit par
Oui.
et puis des rampes de lancement mobiles qui sont des camions qui se baladent.
Ouais.
Mais là, une fois que vous en avez tiré un camion, le camion, il est repéré, il est suivi par les satellites et
Ouais.
rebelote. Donc, les gens me disent, ils ont gardé les meilleurs missiles pour la fin. Je leur dis, faites pas rigoler, parce que pour tirer des missiles, il faut quand même. Ils ont déjà liquidé, d'après ce que je peux savoir,
Ouais.
le tiers des rampes de
Ouais,
lancement.
absolument, c'est ça. C'est ça, vous avez raison. Plus de 120 lanceurs de missiles, donc un tiers des capacités iraniennes, ont été détruites. Ouais, tout à
Et
fait.
donc, la pluie de missiles, ça ressemble, si vous voulez, au rodomontade de ce pauvre Saddam Hussein quand l'armée américaine arrivait. Vous savez, on disait voilà la bataille, on va les écrabouiller, on voyait les troupes américaines qui étaient au bout là, qui arrivaient tranquillement. C'est un peu comme là. Donc il y a une espèce de faconde, on est en train de les écrabouiller,
Ouais.
qui me semble pas correspondre exactement à la réalité quand
Ouais, de
même.
toute façon, il n'y a aucun régime autoritaire qui, à la veille de sa chute, dit ouh là là, ça se passe très très mal. À chaque fois, c'est toujours non mais on va remonter.
Ne vous
Vous
inquiétez pas, les
inquiétez
gars,
pas, on va écraser les
nos adversaires,
adversaires.
oui, mais ça c'est.
D'autant dans un régime comme ça, dont la nature même est que tous ceux qui sont autour du chef de l'État
Ne peuvent être que d'accord.
ne peuvent être que d'accord et ne sont là que
Sinon,
pour
ils
le
seraient morts.
rassurer. Bah oui, absolument. Si,
Sinon,
si
ils
vous
seraient
voulez.
morts. C'est un peu comme à l'Institut des Libertés. Quand ce jeune homme se permet d'avoir une opinion, on lui fait comprendre tout de suite
Que c'est pas possible.
c'est pas possible
Ce qui est
ici.
contredit par beaucoup de vidéos, parce que de temps en temps, ça m'arrive d'avoir des désaccords avec vous et
Exactement. Moi,
je monte
j'espère
devant tout
bien,
le
en
monde.
plus. Il manquerait plus que vous en ayez pas. Quelle horreur. Vous vous rendez compte? J'imagine
Enfin,
rien de pire que les gens d'accord avec moi.
oui, bah oui, clairement, c'est assez inquiétant, effectivement. Enfin bref, Donald Trump a d'ailleurs derrière demandé une évacuation de Téhéran. Il est rentré précipitamment à Washington. Il était au G7 au Canada, où il a demandé à son Conseil de sécurité nationale d'être présent dans la salle de crise. Il a d'ailleurs décidé de ne pas signer la déclaration du G7 qui appelle à une désescalade. Alors c'est formidable. On a du coup les six gars du G7 qui se disent, oh là là, c'est horrible. Faudrait absolument revenir à
Mais
la situation
pourquoi
d'il y a
les
15 jours.
G7, le G6, pourquoi ces soi-disant démocraties veulent-ils soutenir un État aussi criminel que l'Iran?
Je sais pas, et ils se disent bon bah il y a des bombardements, c'est pas bien. Bon, je sais pas, ils veulent revenir. Visiblement, ils adorent la situation telle qu'elle est il y a ne serait-ce
Mais
que
ça fait
10 ou 15
40 ans
jours.
que ces gens-là nous mentent, que ces gens-là organisent des crimes partout, que ces gens-là. Et ben, à quel moment ils décident qu'il faut. J'ai jamais compris cette espèce de. Cette espèce de soumission immédiate dès qu'on agite le spectre de la guerre. Si on n'est pas prêt à mourir, eh ben, on vivra esclave. C'est-à-dire que ceux qui ne veulent la guerre à aucun prix, ils mourront dans la servitude.
Ben oui. Et c'est exactement la position d'Emmanuel Macron, hein, par exemple.
Et voilà, et la position de Trump, c'est de dire, les gars, ils sont en train de le nettoyer, laissons-les bien faire. Quoi.
Ouais.
Lui, Trump, il est enchanté. Il dit, écoutez, c'est les Israéliens qui font le sale boulot. Là.
Ouais.
Bon, on ne me demande rien pour une fois.
Oui, en plus de ça, c'est vrai que c'est une position très hypocrite, parce que je veux bien imaginer ce que, dans le fond, pensent réellement les dirigeants du G7, à savoir que, quand même, c'est bien pratique d'avoir Israël dans le coin pour faire ça, parce que comme ça, nous, on n'est pas obligé de le faire.
En plus, ils pensent même pas ça. Ils pensent, nous, on pourrait pas le faire. Donc on aurait plein d'ennuis. Donc, si vous voulez, le fait que ça soit fait, ça doit les soulager quelque part, mais
ouais.
Ils disent, c'est quand même mieux, parce que nous...
Oui, c'est quand même bien pratique. On a Israël et les États-Unis qui sont déployés dans le coin. Donc nous, on n'a rien à faire. On n'a rien à faire et on risque rien. On peut que condamner. D'ailleurs, c'est ce qu'ils font.
Ils disent que c'est quand même très dommage que si la guerre c'est très 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 mal et tout, et bon, à mon avis, il faut quand même fermer d'urgence toutes les armées en Europe. Ça sert à rien puisqu'on n'a pas l'intention de se battre.
Oui, bien sûr.
Non, je sais pas.
Oui, non, je suis
si ça sert à rien, que dans aucun cas on s'en servira.
Ouais. Oui, non, mais effectivement, c'est pas logique. On voit bien que derrière, il y a l'idée que, bon, ok, ce que fait Israël, peut-être ça peut servir à quelque chose, mais est-il nécessaire de le faire par des missiles, des bombardements, etc. Bon, bah, à un moment donné, malheureusement, oui. D'ailleurs, Israël fait son possible. De ce que je vois, pour éviter les victimes civiles, c'est-à-dire qu'ils préviennent à l'avance quand ils vont bombarder un coin de Téhéran, pour que les gens puissent évacuer, etc. Il n'y a pas la volonté, d'ailleurs ils le savent très bien, il n'y a pas de volonté d'humilier le peuple iranien lui-même, et c'est extrêmement ciblé, la plupart des gens qui sont ciblés, c'est des officiels du régime, des scientifiques du programme nucléaire, etc. Enfin, c'est des cibles comme ça, c'est pas tellement les civils, quand bien même il y a quand même des pertes civiles.
Mais moi, ce qui me fascine, c'est cette espèce de condamnation de principe de la défense.
C'est ça, c'est une condamnation de principe.
Une condamnation de principe, la guerre, c'est mal.
Oui.
Ah bon, c'était mal de se battre contre Hitler ? Mon père a eu tort, puisqu'il a été gaulliste, il a refusé de... Donc il fallait qu'il se soumette pour pas tuer d'enfants ?
Sans doute, oui.
Donc la non-violence, c'est une valeur absolue ? D'ailleurs, c'est ce que disait Gandhi aux Juifs en Inde. Il leur disait, mais alors on ne doit rien faire, on doit se laisser massacrer. Et Gandhi disait, oui, il faut que vous vous laissiez massacrer, parce que la non-violence, c'est quelque chose d'absolu.
Ouais.
Vous ne pouvez pas vous défendre.
Ouais.
Ce n'est pas une notion occidentale, ça.
Non, effectivement. C'est pas une notion de rugby, je crois.
C'est pas une notion de rugby, c'est pas une notion, moi. Ce que disait mon cher ami, le deuxième ligne... qui était un prêtre, il disait toujours, quand on lui demandait qu'est-ce que tu fais quand on te donne une claque, tu tends l'autre joue, il disait je tends l'autre joue, et après, le Christ ne me donne pas d'instruction. Après, je m'occupe de la question.
Oui,
je tends toujours l'autre joue une fois, mais pas deux.
Ouais, il y en a qui ont les moyens de tendre l'autre joue, quand vous êtes suffisamment solide.
Il faisait 2 mètres de haut, oui, 140 kilos.
Donc c'est déjà difficile à atteindre.
Ouais, c'est bien le truc de Audiard, quand on a un bar, quand le type de 120 kilos parle, les types de 60 écoutent.
Ouais.
C'est la même chose, je veux dire. Quoi. On vit dans un monde dangereux et méchant.
Ouais.
Et il y a des méchants.
Ouais. Oui, je pense qu'on peut dire que le régime des Mollahs,
C'est plutôt des méchants.
Ouais.
Et ils ont foutu en l'air le Liban, un pays que j'aimais beaucoup. Et ils ont foutu en l'air la Syrie. Et ils ont foutu en l'air une partie de l'Irak. Mmh. Et ils ont, enfin, je veux dire, ils ont foutu en l'air Gaza. Parce que c'est eux qui sont à l'origine de tous ces crimes, donc... Quelle est la raison de ne pas leur taper dessus ?
Ouais. Non, mais dans les sociétés humaines, on retrouve beaucoup trois profils qu'on retrouve pareil dans des champs. Nous avons des moutons, des chiens de berger et puis des loups. Et le truc, c'est que on aimerait peut-être pouvoir tous vivre comme des moutons tranquillement, sauf que l'existence de loups fait qu'il faut aussi l'existence de chiens de berger, qui sont un petit peu plus agressifs que des moutons, parce que sinon, en fait, à la fin, il n'y a plus de moutons, hein, tout simplement. C'est foutu.
À la fin, il n'y a plus de moutons. Non, bah... Et si vous êtes un chien de berger, vous avez une satisfaction extrême à galoper derrière les loups pour leur faire la peau.
Ouais.
On sent qu'ils aiment ça.
Oui, bah, ils ont été programmés génétiquement pour le faire.
Ils le font très très bien, ils adorent.
Ah, oui, ils le font très
ils
très
adorent très très bien. Donc il y a aussi des hommes. Si vous lisez un type qui s'appelle Guilbeault, je crois, qui était un journaliste de guerre, etc., qui a écrit, qui était intimement intéressé. Il était compliqué, mais je n'étais pas d'accord avec lui, mais ce qu'il disait est intéressant. Il disait qu'il y a une race d'hommes, une catégorie d'hommes, d'hommes masculins, qui adorent la guerre.
Oui.
Qui aiment ça.
Oui.
Et qui se résout. Et c'est avec ça qu'on faisait autrefois les soldats, qui empêchaient, qui défendaient la ville, etc. Ouais. Donc, si vous voulez, pensez que les hommes masculins, il y en a tout un tas qui adorent la guerre.
Oui, bien sûr. Bah, y a plein d'hommes qui ont été traumatisés par la guerre, mais si on pense à un type comme Ernst Jünger, par exemple. Il expliquait dans Orage d'acier que, en fait, il avait absolument adoré la guerre. C'est complètement fou. Mais lui, la guerre de 14, ça a été le summum de sa vie, ouais. Le summum de son accomplissement en tant que humain sur Terre.
Parce qu'il y a la camaraderie, il y a tout ça. Et donc, ben oui, dans la nature humaine, il y a cet amour du combat. Qu'on a maintenant un peu transporté dans le sport, mais,
oui.
Mais ça existait toujours. Hein.
Ouais, et puis on le ressent bien chez Tsahal aussi. Chez les Israéliens, il y en a qui sont très très contents de faire la guerre.
C'est un truc. C'était un des grandes surprises, c'est un homme de gauche, ce gars-là. C'est une de ses grandes surprises, c'est que lui-même, de temps en temps, se sentait. Alors qu'il était correspondant de guerre, il était, se sentait littéralement porté par l'excitation de la guerre.
Ouais.
Je ressens très fortement ce plaisir à être en guerre.
Ah ouais, bien sûr. Bah, on peut comprendre. Après, c'est des émotions extrêmement fortes. Jamais on peut ressentir
quelque chose d'aussi fort que ça.
Au quotidien, c'est impossible. Quand vous ressentez le danger de la mort imminente, possiblement,
ils ont vraiment l'impression de vivre à ce moment-là.
Ouais,
c'est curieux. Et voilà. Donc tout ça est. Donc, on veut nous faire croire que l'homme est bon, que finalement, la guerre, ça ne devrait pas exister, et tout, et tout. Je sais pas.
Oui, bien sûr, la guerre doit être exceptionnelle, mais disons que parfois, elle peut être justifiée, surtout que, effectivement, on est dans une situation où on a un régime théocratique,
détestable,
avec des hommes d'État possiblement irrationnels qui souhaitent absolument détruire un État dans la zone, à savoir Israël, qui fait tout pour obtenir l'arme nucléaire, qui permettrait justement d'arriver à cette fin. Donc on est dans une situation inextricable où Emmanuel Macron propose, je sais pas, peut-être de faire des câlins et des bisous à l'ayatollah pour lui dire non, mais surtout ne fais rien et arrête ton programme nucléaire.
Et je vais te croire.
Et je vais te croire, bien sûr, je vais te croire.
Je vais te croire. Pourquoi je devrais croire ces gars-là qui mentent ?
Je vais pas t'espionner trop fort, t'inquiète pas.
Donc il y a des moments où il faut cesser de croire.
Ouais. Ouais. Et puis j'ai l'impression qu'en l'espace de quelques jours, il y avait eu ces révoltes en Iran il y a un ou deux ans, avec notamment cette jeune génération qui a l'air encore plus opposée au régime que les plus vieilles, celles qui ont connu la révolution. Et finalement, ça n'a pas abouti sur grand chose. Il n'y a pas eu de lutte véritablement organisée.
Il y a eu plein de morts.
Mais il y a eu énormément de morts, bien sûr. Une recrudescence des morts, davantage de contrôle de tout un pan de la société. C'est devenu plus difficile encore de se connecter à Internet, etc. Enfin, bref. Donc ça n'a pas donné grand chose, mais on a vu, comment dire, un extrait peut-être de ce dont cette génération était capable. Et à mon avis, elle a besoin d'un appui de l'extérieur pour vraiment détruire ce régime. Et peut-être que.
Et surtout que l'Iran est un pays curieux parce qu'il n'y a plus que la moitié de la population qui soit vraiment d'origine perse. Le reste, c'est des minorités, des Mongols, des Turcs, des trucs, etc. Il y en a partout, des Arméniens. Et donc, il n'est pas du tout exclu que les minorités qui étaient dans cet état perse disent que si ça ne vous fait rien, on va se révolter pour devenir indépendant. Quoi. Donc, il peut y avoir une rupture à ce moment-là de l'unité nationale.
Oui, après, toutes les cartes sont rebattues.
Toutes les cartes sont rebattues. Ouais, donc, Seigneur Dieu, libérez ce pauvre peuple de ces salopards. C'est tout ce que je souhaite.
Ouais. Bah, je crois que c'est la direction dans laquelle Netanyahou a envie d'aller.
Mm-hmm. Alors, il le fait peut-être pour d'excellentes raisons qui n'ont rien à voir avec ce que je souhaite, mais parce qu'il n'aime pas ceci, il n'aime pas cela. Mm-hmm. C'est pas que je défende Netanyahou, c'est que si on pouvait libérer les Iraniens de ce désastre, mm-hmm. je me sentirais mieux, moi, personnellement.
Ouais, bien sûr.
Je dormirais mieux la nuit.
Oui, je crois que ça fait partie des rares guerres souhaitables.
Exactement.
On espère bien sûr qu'il n'y aura pas trop de morts et que ça ne durera pas éternellement, bien entendu. Si possible, un truc très rapide et très efficace, bien, ça va de soi. Mais effectivement, il y a une forme de justification à ce conflit.
C'est pas difficile à trouver.
Ouais, tout à fait. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, on faisait une émission sur les conflits du futur. On parlait de l'Iran et effectivement, on disait que l'Iran, c'était un vrai problème et que c'était le problème, d'ailleurs, le plus grave dans un futur proche, quoi.
Voilà.
Et ben, on y est. On verra ce qu'il en sera et puis voilà. Je vous remercie de votre attention, je vous remercie de nous suivre dans toutes ces vidéos, dans toutes nos aventures, et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'Institut des Libertés.
Et merci beaucoup.